Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine enregistrée ici à Dakar. Et ce rendez-vous va nous donner l'occasion de découvrir, ou de mieux connaître, une personnalité majeure de la santé ici au Sénégal. Un entretien, un tête-à-tête avec un virologue au parcours impressionnant et à l'engagement intact. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, le portrait du docteur Amadou Alpha Sall.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Amadou Alpha Sall, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Et merci beaucoup d'avoir invité notre invitation. Nous sommes ici dans les studios de RFI en Mandinkan et Full Day. On remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil. Et merci aussi de nous avoir ouvert les portes de votre maison, l'Institut Pasteur de Dakar. On a pu ainsi découvrir également le futur site industriel d'exception, le chantier du Vaccinopole, l'unité de production de Damiadio. Docteur Amadou Alpha Sall, cet Institut Pasteur de Dakar, dont vous êtes l'administrateur général, depuis 6 ans le directeur, vous vous souvenez du jour où vous êtes justement devenu ce directeur ?
Oui, je me souviens de ce jour parce que c'était un 1er septembre. Ce jour-là avait été un peu préparé parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon prédécesseur, dont j'étais le directeur scientifique. Et donc, il partait à la fin du mois d'août et je prenais le 1er septembre sa succession. J'ai vécu très très longtemps à l'Institut Pasteur. Je suis venu quasiment comme étudiant et j'ai fait toutes les étapes de chercheur, chef de labo jusqu'à la direction. Et donc c'était un jour qui était assez particulier, mais qui est passé très vite compte tenu de l'ampleur de la tâche.
Alors une ascension, on va détailler cette ascension, on va évoquer ce parcours, les jalons de votre carrière, les acquis, il y aura peut-être aussi des déceptions, en tout cas pas mal de projets. Je disais, patron de l'Institut Pasteur Dakar, l'un des plus grands virologues au monde, visionnaire, ambitieux, humble, c'est pas moi qui ai choisi ces qualificatifs, on peut dire que c'est très élogieux, c'est l'épidémiologiste Antoine Flao, professeur de santé publique à l'Université de Genève, dans son livre « Covid, le bal masqué » publié aux éditions d'Uno. Un hommage appuyé d'un confrère, il dit que vous représentez, docteur, l'Afrique qui gagne. Qu'est-ce que c'est, docteur Amadou Alpha Sall, l'Afrique qui gagne ?
Je trouve que le mot qu'il utilise, l'Afrique qui gagne, est très important. Je suis toujours ébahi quand je visite l'Afrique par la créativité des jeunes, le niveau de performance. Et donc, parler de cette Afrique qui gagne, c'est quelque chose qui donne un élan très optimiste dans ce climat des fois où on parle plus de nos échecs que de nos réussites. Mais surtout, je pense que ce qui fait dire ça à Antoine, c'est que dans la Covid, l'Afrique a déjoué tous les pronostics.
C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'au début, il y avait des discours extrêmement alarmistes. On reviendra sur cet épisode du Covid, hélas, qui n'est pas encore terminé. Docteur Amadou Alpha Sall, cette rencontre avec Pasteur, vous disiez, c'était votre jeunesse. Il y a eu des études au Royaume-Uni, Oxford, aux États-Unis, Columbia. Qu'est-ce que vous gardez de ces années d'apprentissage dans ces facultés extrêmement prestigieuses ?
3 choses importantes. La première, c'est que faire de la science, c'est beaucoup une question d'environnement. Le reste, c'est du talent. Et ce talent, on en trouve partout. J'ai été très marqué par la diversité. Dans le labo où je travaillais et enseignais à Columbia, nous étions peut-être sur 70 personnes. Il n'y avait qu'une dizaine d'Américains. Nous étions essentiellement des étrangers. Donc, avoir cette diversité de talents et leur donner l'environnement qu'il faut, c'est une leçon majeure. La deuxième chose, j'étais très marqué par le niveau de connaissance et d'humilité qu'avaient les scientifiques que j'avais autour de moi, qui étaient des sommités mondiales. Et qui, malgré cela, était très accessible, apprenait toujours des étudiants. Et la dernière chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'importance dans la recherche d'avoir une approche collective. Mmh. La recherche, c'est une question d'équipe. Et que les idées, tout le monde peut en avoir. Maintenant, ce qui va faire que ça va bien marcher, c'est d'avoir un leadership qui permet de faire ça.
Et aujourd'hui, ce leadership, c'est vous ?
Dans les fonctions qui sont les miennes, oui, exactement. Aujourd'hui, ce leadership dans la recherche, dans la santé publique, l'enseignement, les missions de l'Institut Pasteur, il m'a été confié, effectivement.
Oxford, vous y avez obtenu un doctorat, la plus ancienne université britannique, l'une des meilleures universités au monde. C'était comment ? Pas trop strict, trop guindé, les costumes, tout ça. Comment on s'en sort ?
Alors, en fait, j'ai fait une partie de ma thèse à Oxford. Mmh. Et ce que j'avais trouvé remarquable là-bas, c'est qu'en arrivant en Angleterre, à Oxford, c'était la première fois que j'avais justement là aussi un narratif sur des Anglais très froids. Et j'ai trouvé l'inverse. J'ai trouvé un endroit avec des amis très chaleureux, une diversité. Et ce qui me plaisait beaucoup à Oxford, c'est que je fréquentais beaucoup d'amis qui n'étaient pas forcément des scientifiques. Donc, j'ai beaucoup discuté avec des économistes, des philosophes. Et ça aussi, très vite, ça m'a ouvert les yeux sur la notion un peu de convergence en matière de connaissances. Et je trouve que les bons chercheurs vont au-delà de leurs horizons purement techniques. Ils s'intéressent beaucoup à l'art, ils s'intéressent beaucoup à la philosophie. Et c'est cette diversité, cette convergence dans la connaissance qui m'a passionné à Oxford.
Dans l'inspiration. En 99, vous avez soutenu votre thèse de sciences médicales, le sujet « La fièvre de la vallée du Rift ». Votre chemin est tracé, les arboviroses. Docteur Amadou Al-Fassal, pourquoi ce choix ?
Alors, ce choix-là, il a été un peu par hasard. Moi, j'ai toujours voulu travailler au Sénégal. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un monsieur qui dirigeait l'Institut Pasteur, qui est une légende dans l'arbovirologie, et qui m'a dit, vous ne ferez pas de sida, vous ne ferez rien d'autre que des arbovirus. C'était, ça ne me plaisait pas beaucoup à l'époque, parce que c'était un peu une matière un peu ésotérique.
Vous n'étiez pas dans l'air du temps, on va dire.
Voilà. Mais il a beaucoup insisté en me disant, voilà, je vois que vous avez fait des études dans le domaine de la génétique. Ça, c'est le futur de la virologie. Et je voudrais que vous, en tant que Sénégalais, vous fassiez partie des gens qui développent cette discipline. Quelques années après, il est décédé, donc je l'ai vu quasiment quelques temps avant sa mort, et il m'avait confirmé que c'était une bonne chose, et je confirme que je pense que je n'aurais pas été aussi heureuse si j'avais été justement dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout le monde vient aux arbovirus et aux fièvres hémorragiques, parce qu'on entend parler de Zika, d'Ebola, de Marburg, etc. Et à l'époque, il était, lui, très visionnaire. Il a voulu qu'on se focalise sur ces virus, et c'était aussi une priorité locale, très importante au niveau du Sénégal, et qui est un peu dans l'esprit des instituts Pasteur, de se focaliser sur les priorités locales.
L'histoire des épidémies vous a rattrapé finalement ?
Absolument, parce que je me destinais plutôt à une carrière de recherche fondamentale. Mais très vite, quand je suis venu au Sénégal, je me suis rendu compte que la science purement fondamentale avait ses limites. Et pour justement intéresser mes collègues à ce que je faisais, je les ai accompagnés dans les épidémies. Et donc du coup, ça m'a beaucoup plu puisqu'on trouvait ensemble des solutions, justement la technologie apportait des solutions pour aller vite dans le diagnostic, dans la réponse aux épidémies.
Alors, des étapes internationales qu'on a citées. Et puis, il y a eu Oxford, New York et Phnom Penh, l'Institut Pasteur du Cambodge. Vous avez dirigé le laboratoire de cet institut entre 2002 et 2004. C'est ça, il y a 20 ans environ ?
Exactement. Les instituts Pasteur avaient un système de mobilité pour lequel j'avais été choisi pour aller au Cambodge pour travailler sur les hépatites. Et donc, comme il n'y avait pas de laboratoire, on m'avait demandé de monter ce laboratoire et j'ai travaillé beaucoup sur les hépatites, l'hépatite C à l'époque, l'hépatite B. Et ça a été formidable au-delà de la partie scientifique de venir rencontrer un peuple asiatique. Mon épouse et mes enfants ont adoré ce pays. Les Cambodgiens sont des gens extrêmement gentils, extrêmement attachants et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, à tel point que je retourne régulièrement en Asie.
Alors, cette tradition pasteurienne à laquelle l'homme de lettres et académicien français Auric Orsenna fait référence à plusieurs reprises, il vous cite, docteur Amadou Al-Fassal, dans son ouvrage « La géopolitique du moustique », un livre publié aux éditions Fayard dont je vous propose maintenant la lecture d'un court extrait, page 213.
Depuis le temps que je viens à Dakar, je rêvais de pénétrer dans l'Institut Pasteur. Et pas seulement parce que c'est un authentique chef-d'œuvre art déco. Une fois la porte franchie, on entre dans un village. Un très studieux et très utile village, où près de 300 personnes travaillent. Le chef du village est un géant. Il s'appelle Amadou Al-Fassal. Dans ce village, on s'intéresse aux bactéries, aux processus immunitaires, aux formes les plus pernicieuses de la grippe, aux soins de la mère et de l'enfant, à l'émergence des épidémies. Ici, on a mobilisé les forces contre la terrible fièvre Ebola en Guinée, mais aussi contre la dengue au Cap-Vert, contre la fièvre jaune en République démocratique du Congo et en Angola, contre la fièvre de la vallée du Rift au Niger, contre le Zika au Mexique et au Brésil. Ici, on a inventé des valises kits qui permettent d'établir des diagnostics sur le terrain en moins de 15 minutes. Ici se trouve l'un des trois lieux dans le monde où l'on fabrique des vaccins contre la fièvre jaune. Je vous le disais, c'est un village très actif.
Alors, docteur Amadou El Fassal, ainsi que les auditrices et les auditeurs, peut-être que vous aurez reconnu la voix de Juan Gomez, d'Appel sur l'actualité, bien sûr. Nous aussi, à RFI, on est une équipe. Cet extrait de la géopolitique du moustique, Eric Orsena, vous décrit comme un géant d'un mètre 92. Ça veut dire que je vous dis vraiment merci qu'on fasse cet entretien assis et non debout, parce que sinon je devrais une nouvelle fois tendre mon micro bien haut. Eric Orsena qui parle de votre Institut Pasteur de Dakar comme d'un village. Combien de villageois ?
Aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 350. Nous avons beaucoup cru avec la Covid et nous sommes dans une phase active de recrutement. Et Eric a bien raison d'utiliser mon village, c'est sa grande qualité de compteur. Et donc ce village, c'est une bonne chose de prendre cet aspect village parce que l'Institut Pasteur est vraiment une institution africaine. Celle de Dakar a cette vocation à travailler dans une dynamique et un esprit très africain au sens où on essaye de se concerter un maximum, on essaye d'avoir une approche collective des choses, une réflexion approfondie, mais surtout d'avoir un sens de service et d'être utile aux populations que nous avons. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il cite typiquement les kits qu'on a inventés parce qu'en Guinée, nous étions confrontés à la rapidité du diagnostic pour que les gens puissent enterrer les morts. Et donc, il y a vraiment cette réflexion pour toujours partir de ce dont a besoin la population pour ramener des solutions techniques.
Cette capacité d'adaptation, un village, on va s'y rendre tout de suite dans ce village. Et la visite commence par les jardins avec Babacar Nying, responsable qualité environnement à l'Institut Pasteur, 22 ans de maison.
Ce buste que vous voyez devant nous symbolise le fondateur de l'Institut Pasteur qui est en réseau au niveau international et l'Institut Pasteur de Dakar en fait partie. Donc autour de ce buste, vous avez à votre droite l'unité de fabrication du vaccin contre la fièvre jaune qui est aussi une entité importante dans le cadre de la riposte sur toutes les épidémies. À notre gauche, on a le laboratoire de biologie médicale et à notre gauche, on a le pôle de virologie qui héberge les différents centres de référence dans le cadre de la riposte contre les pandémies. Là, nous sommes au niveau du laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur de Dakar. C'est un laboratoire qui fait des analyses de biologie. Au niveau du GIA, responsable chargé de clientèle, il y a les biologistes, il y a toute l'équipe d'encadrement. Cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle accueil préanalytique de tous les patients. Les patients, quand ils arrivent, ils traversent l'autre porte que vous voyez devant nous. Donc, arrivés ici, ils sont accueillis par les secrétaires qui sont là pour prendre en charge les demandes d'examen. Après, ils passent dans une autre phase qui s'appelle la phase d'enregistrement, où les patients sont enregistrés à partir de bulletins d'analyse qu'ils ont reçus de la part des médecins et des prescripteurs. Après, il y a une partie prélèvement au niveau de ces analyses. Et après, les prélèvements sont acheminés au niveau du laboratoire pour être techniqués. Et après, les résultats sont validés d'abord par les techniciens, mais aussi après par les biologistes, avant d'être rendus aux patients.
Et comme tout est fait sur place, ça prend beaucoup moins de temps.
Exactement. Non seulement ça prend beaucoup moins de temps, mais aussi le plateau technique aussi qu'on a au niveau du laboratoire permet de prendre en charge toutes les demandes d'analyse au niveau des patients. Donc là, on va au niveau du pôle de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar qui héberge les différents centres de référence au niveau national et international.
Je vous suis. Donc là, on voit des gens qui travaillent à leur bureau. Qu'est-ce que font ces gens qui sont en train de travailler en blouse blanche ?
Donc ces gens qui sont en train de travailler en blouse blanche sont dans le cadre des tests de diagnostic Covid-19, aussi bien dans le cadre de la surveillance nationale, mais aussi dans le cadre des tests Covid voyageurs.
Quand il y a des épidémies, par exemple, en brousse, en dehors de Dakar, maladies intestinales chez les enfants, vous êtes parfois missionné pour aller faire des prélèvements ?
Exactement. Donc ça fait partie des compétences du laboratoire à se déployer sur le terrain en cas d'épidémie pour faire des prélèvements de produits de gens alimentaires, même dans le cas diarrhéique aussi, et qui sont analysés au laboratoire pour vraiment contribuer à la lutte contre cette pandémie ou épidémie.
Il y a beaucoup de réfrigérateurs, deux congélateurs dans ce couloir, ils servent à quoi ? Et je vois même que sur ce réfrigérateur, il y a un cadenas.
En fait, c'est des réfrigérateurs où on garde des échantillons biologiques. En fait, c'est pourquoi en fait, on y met des cadenas, parce que l'accès est sécurisé.
Donc là, nous sommes devant l'unité de vaccin fièvre jaune, le laboratoire de production. On va franchir les portes, si vous le voulez bien. Votre rôle spécifique, Madame Nathalie Robineau, dans cette unité de production, c'est quoi ?
Donc moi, je suis directrice de l'unité de production et pharmacien responsable depuis 10 ans.
Alors, quand on rentre, effectivement, on entend un bourdonnement. C'est parce qu'effectivement, la climatisation joue à plein pot et on a énormément d'appareils électriques qui sont aussi en train de fonctionner. Donc dans ce sas d'entrée de l'unité de production, on voit au travers des vitres des espèces d'aquariums géants équipés de gants dans lesquels les personnes vont pouvoir travailler en tenue entièrement stérile et évidemment n'avoir aucun contact direct avec ce vaccin. On m'a dit 5 millions de doses annuelles, c'est ça le entre guillemets le rendement?
Oui, c'est ce qu'on est capable de produire ici. Et donc à Africa Marine, la nouvelle usine, on pourra monter jusqu'à 30 millions.
Quelles sont les nécessités en termes de vaccins anti-fièvre jaune pour la sous-région, pour l'Afrique subsaharienne?
Les besoins en Afrique sont au-delà de 40 millions de doses.
Vous percevez comment cet ensemble? Comme un village, comme une entreprise ou comme une usine?
On le perçoit comme un écosystème, dans le sens que toutes les activités sont interconnectées, dans le sens de répondre aux besoins de la population, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé publique, mais aussi dans le domaine du service. Donc disons village, mais un village vraiment impliqué.
Et c'est donc devant ce bus de Louis Pasteur que se termine cette visite. Merci beaucoup de nous avoir servi de guide, Baba Garning. Merci pour tout et pour toutes ces rencontres.
Merci à vous aussi et merci à toute l'équipe de RFI.
Voilà pour cette visite de Pasteur Dakar. Docteur Amadou Alpha Sall, on vous retrouve, rôle reconnu à l'échelle internationale pour votre institut Pasteur de Dakar et même donc international quand s'est déclarée en 2015 l'épidémie du Zika au Brésil. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode?
Oui, en fait, quand j'étais à Oxford, j'étais très ami, pour des raisons de... On jouait régulièrement au football, un ami brésilien qui est retourné au Brésil. Et sa spécialité, c'était d'étudier l'évolution des virus. Et donc, j'avais envoyé un de mes étudiants chez lui pour travailler sur le virus Zika. Quand le virus a explosé en Amérique du Sud, il m'a appelé en me disant, « Amadou, visiblement, tu as eu raison de travailler sur ce virus. » Apparemment, vous faites partie des gens qui ont le plus d'expérience là-dessus. Toute la littérature parle de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez venir nous aider au Brésil? Et donc, je suis parti avec une équipe de 7 ou 8 personnes où on a transféré toutes les connaissances qu'on avait pour diagnostiquer, suivre dans la région de São Paulo. Et à partir de ça, ils ont pu commencer à travailler. Et donc, ce travail au Brésil a eu beaucoup d'écho. Et du coup, 3 semaines après, on a eu un appel du Mexique, donc où j'ai dû retourner au Mexique avec une autre équipe. Et donc, c'est quelque chose qui a été très important parce que pour la première fois, ce virus était associé à des microcéphalies, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des petites têtes. Et ça, pour des raisons qu'on ne comprenait pas, que même nous, on n'avait pas vu en Afrique. Et l'importance de cet épisode, c'est que nous avons travaillé sur ce virus juste parce qu'on le voyait régulièrement sortir au Sénégal depuis les années 60. Et on s'est dit, si un jour ce virus doit exploser, nous devons être en mesure de le diagnostiquer, de l'analyser. Et ce travail d'anticipation, de surveillance et de veille microbiologique, c'est un peu ça la préparation des épidémies. Ce n'est pas quand les choses ont commencé qu'il faut le faire, mais il faut anticiper. Et je pense que le Brésil nous a beaucoup enseigné là-dessus.
Travailler loin de chez vous, mais aussi travailler, on va dire, à côté de l'Institut, puisque vous officiez directement avec les grands hôpitaux de la capitale.
Effectivement, nous avons une collaboration très active avec l'hôpital de Dantec, avec l'hôpital principal, la plupart à Fan, où nous avons une collaboration très active avec le service des maladies infectieuses, avec mon ami le professeur Seydi, que je salue au passage. Et donc, nous avons vraiment toute une série de travaux que nous faisons. Notre but aussi, c'est vraiment de soulager les patients. Et souvent, notre rôle de centre de référence, c'est qu'on a des techniques de détection qui ne sont pas forcément dans tous les labos d'analyse. Et donc, ils sont vraiment spécifiques et c'est un peu le rôle de nos centres de référence.
Et c'est aussi peut-être important de le faire savoir parce que peut-être qu'une partie de la population pense que, dans certains cas, vous êtes un petit peu détaché des préoccupations sanitaires, on va dire, de la population, du peuple, alors que non, effectivement, vous êtes en association avec ces hôpitaux qui s'occupent de tout à chacun.
C'est effectivement, nous travaillons dans toutes les régions du Sénégal, non seulement pour faire de la santé publique tous les jours, non seulement il y a cela, mais la situation de Dakar a contribué à faire émerger une élite dans la microbiologie au Sénégal. Il y a tous les grands noms de la microbiologie au Sénégal ont été formés à un moment à l'Institut Pasteur. Et il est aussi important de dire que dans les populations, il y a très peu de localités qui peuvent être citées où on n'a pas été pour faire des actions en entomologie, en virologie, suivre des épidémies. Nous avons avec le système de santé un système de surveillance qui touche toutes les régions du Sénégal. Chaque semaine, nous recevons des échantillons pour aider à diagnostiquer. Donc c'est un système qu'on appelle 4S avec le ministère. Et donc notre action en santé publique est majeure et importante, toujours au service des populations.
Toujours une action de terrain. On va revenir aux arboviroses, docteur Amadou Alpha Sall. Fièvre hémorragique notamment, ça nous renvoie bien sûr à un événement sanitaire majeur de la dernière décennie pour la région ouest-africaine. 2014-2016, la pire épidémie de fièvre de maladie à virus Ebola, hein, qui avait tué plus de 11 500 personnes, Liberia, Sierra Leone, Guinée surtout, alerte régionale. Alerte qui, à la fin de l'été 2014, concerne aussi votre pays, le Sénégal. Docteur Sall, avant de nous parler de votre propre expérience à ce moment très particulier, tant sur le plan professionnel qu'humain, retour en arrière, une archive RFI. 21 août 2014, reportage signé Binta Diagne à la frontière avec la Guinée.
Devant le poste de contrôle de Kalifourou, trois agents de police se relaient pour contrôler le passage des taxis et des cars guinéens. En temps normal, ils inspectent leurs papiers et leurs bagages, mais désormais les voyageurs sont priés de se laver les mains avec de l'eau chlorée avant d'entrer dans le pays. Une tente a même été installée pour isoler d'éventuels cas suspects. Malgré ces mesures, Thierry Yassine Fall, le responsable de la police des frontières, reste inquiet.
On demande les moyens, c'est-à-dire les kits de protection. Parce que ceux qui sont là, c'est une police des frontières, les gens ne sont pas fixes. On est dans les côtes frontières de la Gambie, les gens tournent à tour de rôle. C'est pourquoi on voulait équiper tout le monde, que tout le monde soit au même moyen de protection.
Selon ce responsable, près de 200 personnes franchissent chaque jour la frontière. Au total, seulement 10 agents se relaient pour contrôler l'ensemble du district. La vigilance est de mise, parfois un peu trop. En début d'année, des Libériens en bonne santé avaient été mis en quarantaine et la fermeture provisoire des frontières avait créé des tensions, comme le souligne Bassir Oudia, le sous-préfet de Bonconto.
Il nous est arrivé de mobiliser ici 70 véhicules. Il y avait une pression forte sur nous, mais c'était des obligations de sécurité nationale. Donc il fallait vraiment fermer nos frontières. Mais les difficultés majeures, c'était qu'il y a des pistes de production où les gens se faufilaient pour entrer au niveau de Calais.
Difficile de contrôler réellement les flux migratoires. Hors micro, un agent de police explique que de nombreuses personnes passent entre les mailles du filet en traversant la forêt dense qui entoure le poste de contrôle. Binta Diagne, de retour de Kalifourou, RFI.
Archive RFI 2014, docteur Amadou Alpha Sall, quel souvenir gardez-vous de cette crise Ebola de 2014-2016?
Alors, le premier souvenir, c'est que j'étais en Amérique du Sud, en Uruguay, quand j'ai reçu une lettre du ministre de la Santé parlant d'une maladie mystérieuse sur laquelle il demandait l'appui de l'Institut Pasteur de Dakar et de mon équipe en particulier. Donc, tout de suite, j'ai répondu pour envoyer l'équipe et les rejoindre. Donc, un début très, très difficile parce que quand l'équipe est arrivée sur place, ils sont arrivés le jour même, ils sont de l'aéroport, ils sont allés au laboratoire, on commence à passer les prélèvements, ils ont vu que c'était Ebola. Donc Ebola n'avait jamais été diagnostiqué en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons depuis un certain temps là-dessus par anticipation. Et donc l'équipe a pu le détecter très rapidement. Mais surtout, on n'avait pas vu du tout Ebola dans les villes. Et donc ça a comporté un risque très important. Donc le début a été un souvenir très, très difficile qui apparaît tout le monde. Donc j'ai rejoint l'équipe deux jours après. Et donc nous avons commencé à monter tout un laboratoire pour appuyer un centre de traitement que tenait MSF dans le principal hôpital du centre-ville qui était Donka, où la maladie commençait à diffuser.
Et vous parlez depuis le début de la Guinée, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais donc c'est l'hôpital de Donka à Conakry.
À Conakry, je parle effectivement bien de la Guinée. Et très vite aussi, nous avons reçu des prélèvements du Libéria. Donc nous avons aussi diagnostiqué le premier cas du Libéria pour Ebola. Et ça a permis justement de mobiliser des équipes sur place, parce que la situation était encore plus catastrophique qu'en Guinée. Le deuxième élément important était un élément plutôt personnel, puisque une partie de mon équipe avait été déployée en Sierra Leone, où malheureusement l'un d'entre eux a été infecté, qui était déployé sous OMS et qu'il a fallu évacuer en Allemagne. Il a eu fait une Ebola très très sévère, un épisode vraiment très très sévère où nous avons beaucoup craint pour sa vie. Et donc j'étais allé en Allemagne justement au moment où il arrivait, pour aider un peu l'équipe, voir ce que je pouvais faire sur place. Et le jour où je suis arrivé, j'ai discuté avec le médecin, le soir à l'hôtel, je recevais les résultats pour le Sénégal et la sous-région, et on a vu qu'au Sénégal, il y avait un premier cas. Donc j'ai dû laisser mon collègue et ami sur place pour venir au Sénégal, puisqu'on avait un cas d'Ebola. Donc c'était une semaine particulièrement chargée, une des plus difficiles, je veux dire, sur le plan professionnel, parce qu'on avait un risque de perdre un collègue qui, d'ailleurs, heureusement, a survécu. Et aussi, notre pays était infecté. Donc, il y a une mobilisation très, très importante. Et le troisième souvenir important que j'ai de cette épidémie, c'est que pour une première fois, on avait vu beaucoup d'équipes africaines, pour une maladie aussi importante, être très présentes sur le terrain. Et cette expertise locale qui prend en main les choses, pour moi, était un signe que les temps avaient changé. Et pour moi, l'une des plus grandes fiertés que j'ai, c'est que nos collègues guinéens, après quelques mois passés là-bas, prenaient en main toutes les choses, y compris les laboratoires. on a été de moins en moins utile. Et donc, pour moi, ce transfert de compétences a été important. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de recherches importantes et de nouvelles connaissances là-dessus, jusqu'à s'impliquer pour le premier vaccin Ebola qui a été mis au point, enfin, évalué sur le terrain à ce moment-là.
Alors, être pasteurien, c'est aussi tisser des liens avec d'autres scientifiques qui intègrent cette vision, cette ambition, ces missions. Et parmi eux, docteur Amadou Al-Fassal, il y a des connaissances de longue date. Docteur Ousmane Faye, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le responsable du département de virologie à l'Institut Pasteur de Dakar. Et si on vous a parlé, c'est parce que vous avez un long chemin avec le docteur Amadou Al-Fassal, 20 ans d'expérience commune. Vous l'appelez comment quand vous vous adressez à lui ?
Je l'appelle Amadou, donc c'est le terme que j'utilise pour l'appeler. Pas docteur, pas professeur, je l'appelle Amadou tout simplement.
Par le prénom, vous tutoyez ?
Voilà, on se tutoie. Lui aussi, affectueusement, il m'appelle Ousou.
Vous décrivez comment le lien qui vous unit ?
On est des collaborateurs, franchement, on travaille beaucoup. On a beaucoup travaillé, comme vous le dites maintenant, on a cheminé ensemble depuis 2002, surtout pour l'appui des populations africaines.
Une vocation, une vision, peut-être même une ambition, c'est une réflexion également dans la pratique, recentrer, penser pour l'Afrique, par les Africains, pour les Africains, c'est vraiment essentiel.
Vous venez de résumer en tout cas ce qu'il a en tête, vraiment, en tout cas, travailler pour l'Afrique, donc avoir des visions. Donc même dans les projets de recherche qu'on a mis en place, vraiment la vision c'est africaine. Par exemple, quand on dit qu'on va mettre des tests de diagnostic rapide, parce que là on sait que les conditions de travail dans les sites africains c'est assez difficile. Il faut avoir des outils, en tout cas, qui puissent résister aux chaleurs, qui puissent résister à la température, et donc vraiment est facile d'utilisation. Donc vraiment, on a eu beaucoup de projets dans ce sens-là, vraiment réfléchir à l'Afrique.
Un long chemin ensemble, on disait tout à l'heure en commençant. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme temps fort dans ce parcours, sur le plan scientifique, sur le plan de votre expérience médicale ?
Sur le plan scientifique, c'est vraiment tous les projets qu'on a eu à obtenir ensemble pour vraiment bâtir des choses. Je pense qu'en 2002, quand je travaillais dans son laboratoire, c'était un laboratoire de virologie moléculaire. C'était un petit laboratoire. Il y avait deux techniciens, moi et lui, qui travaillaient. Donc, on a cheminé ensemble, on a mis des projets ensemble, on a fait des articles en commun. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je retiens. Je retiens en lui une vision. Quand il te pose quelque chose sur la table, tu ouvres les yeux, hein, comment on va y arriver. D'avoir également une abnégation, parce que souvent il fait des choses, il oublie même effectivement ses propres intérêts pour l'intérêt commun.
Ce petit laboratoire dont vous parliez à l'époque, c'était déjà chez Pasteur ou c'était ailleurs ?
C'était Pasteur, donc en fait c'était un petit laboratoire qui était un peu dans le département de virologie, parce qu'il y avait plusieurs entités au niveau de la virologie. Finalement, on a tout coordonné pour devenir un département de virologie pour lequel effectivement il a eu à diriger ce département de virologie. Ensuite, il est passé directeur scientifique, après administrateur. Donc vraiment, il a cheminé, en tout cas pour arriver là où il est actuellement.
Peut-être maintenant une dimension un petit peu plus personnelle de cette relation, même si vous le disiez tout à l'heure, vous êtes avant tout des collaborateurs professionnels. Les adjectifs que vous retenez pour le décrire, vous avez employé un nom tout à l'heure qui est une qualité, l'abnégation. Vous diriez quoi d'autre ? Si on disait le docteur Amadou Al-Fassal, il est vraiment ?
Un homme rigoureux. Franchement, en tout cas, un résultat avant que ça sorte dans son laboratoire. Et vraiment, c'est la rigueur. On ne sort jamais un résultat sans pour autant qu'on soit sûr que c'est le bon résultat. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je retiens.
Est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'un modèle ?
Oui, en fait, je peux dire que c'est un modèle. Hein. Et je vois en lui quelqu'un qui est vraiment motivé pour ce travail et il se donne à fond. Si je te dis qu'il dort 4 heures de temps par jour, le jour où il m'a dit ça, moi, j'ai ouvert les yeux. Pour vous dire que vraiment, voilà, c'est ça la personne, quoi.
Beaucoup de compliments. Est-ce que, comme tout le monde, finalement, le docteur Sall, c'est un humain ? Par conséquent, il a forcément quelques petits défauts ?
Oui, il a des défauts, hein, parce que tout le monde les a, en tout cas, défauts. Je peux dire, par exemple, en fait, chez nous, on l'appelle affectueusement. En fait, les gens, ils l'appellent moins 80 degrés Celsius. C'est-à-dire, quand tu lui donnes quelque chose, n'attends-toi pas à avoir le résultat tout de suite, parce qu'il prend son temps. Il prend tout le temps nécessaire, il n'oublie rien. Mais sa vision, c'est sa vision. Donc franchement, il y va tout droit. Et donc, bon, de temps en temps, des fois ça passe, des fois ça casse, parce que souvent, il n'est pas bien compris par certains. Mais je pense que c'est un peu ça qu'on peut retenir comme petit défaut, moi, ce que je peux considérer comme défaut en lui, quoi.
Vous voyez encore longtemps poursuivre ce chemin à ses côtés ?
Oui, bon, en fait, on est ensemble, donc je pense qu'on a fait un bon chemin ensemble. On a en tout cas des projets également qu'on est en train de dérouler. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis fidèle à lui. Donc, par rapport à ce qu'on fait, il a confiance en moi, c'est ça que je retiens. Moi aussi, j'ai fait confiance en lui. Et donc, on est dans ça, et je pense qu'on va encore continuer.
Dans la réciprocité, merci beaucoup, hein, Dr Ousmane Faye. Merci beaucoup pour ces confidences. Je rappelle que vous êtes le responsable du département de virologie à l'Institut Pasteur de Dakar. Un confrère, le docteur Faye, docteur Amadou Al-Fassal, collaboration professionnelle, fidélité, respect. Et vous, qui, quelle personnalité vous inspire, quel parcours, quel talent a pu constituer une autre forme de modèle, sinon d'influence, une rencontre déterminante?
Il y en a plusieurs, mais une qui m'a particulièrement marqué, c'était le professeur Peter Piot. C'est un des co-découvreurs du virus Ebola, donc un sujet que je suivais particulièrement.
Avec le professeur Mouyembe de RDC.
Avec le professeur Mouyembe, qui est aussi un bon ami. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que c'est un scientifique à la base qui déjà part très jeune en RDC pour s'occuper d'une maladie qui tue 9 personnes sur 10. Donc ce qu'on fait un peu, aller vers là où les gens souffrent pour comprendre, etc. Mais surtout, à partir d'un scientifique pur, il est allé plus vers du management et de la politique de santé. Et ce qui est très impressionnant dans ça, c'est qu'après, il a continué dans l'académique. Et donc, avec la même ligne rouge, qui était de dire « je vais servir les gens, mais en échange, changer un peu le monde ». Et typiquement, c'est grâce à son action qu'une grosse partie de ce qu'il a pu faire à l'ONU-SIDA a permis, avec son équipe, dont le professeur Omari Kolsek et d'autres, de réduire le prix d'accès aux médicaments contre le VIH. Ensuite, enseigner un peu partout. Et aujourd'hui encore, il travaille beaucoup avec nous pour l'Afrique. C'est ce type de parcours qui, pour moi, ont été très impressionnants.
Précisément, c'est bien lui, hein, le microbiologiste belge multi-récompensé, ex-patron de l'ONU-SIDA, Peter Piot, qui lui aussi vous considère comme un grand. Et il vous adresse ce message, message personnel.
Cher Amadou, en premier lieu, je voudrais te remercier pour un travail remarquable dans beaucoup de sens. Tout d'abord, un travail scientifique de haute qualité permettant de mieux combattre les épidémies en Afrique et ailleurs. Deuxièmement, pour ton leadership impressionnant comme directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, le premier directeur africain, un institut qui est devenu un des plus influents instituts de recherche en Afrique, est reconnu globalement. Ce qui me frappe, c'est que tu as une perspective pas seulement africaine, mais mondiale, grâce à ton expérience sur 4 continents, ce qui est assez rare. Je ne sais pas quand tu dors. Ton dynamisme et goût du travail n'est égalé par ton art de vivre et ton hospitalité légendaire. Si dans un avenir pas trop loin, l'Afrique produira les vaccins dont elle a grandement besoin, ce sera pour une grande partie grâce à ton travail et leadership et en se basant sur le fait que l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune. Je me réjouis déjà de notre prochaine rencontre à Bruxelles et à Dakar autour d'un bon repas et en discutant comment mettre fin aux épidémies, à la souffrance des gens, améliorer la santé publique. Et je dirais toujours plus haut. Merci, Amadou.
Votre réaction, docteur Amadou Al-Fassal. Peter Piot vous appelle par votre prénom, tout simplement. Ça veut dire que les épidémies, ça peut éloigner, ça peut aussi rapprocher. Hein.
Ça rapproche beaucoup. Et Peter est un Africain avant d'être belge, des fois, je me demande, qui aime beaucoup l'Afrique, qui a beaucoup travaillé à faire que les maladies africaines soient prises en compte. Et donc, son amitié, il l'a toujours mis au service de notre pays, le Sénégal, de l'Institut Pasteur de Dakar. Et je retiens de lui aussi qu'il est quelqu'un de très disponible. Chaque fois qu'on discute, il est toujours prêt à aider. Et c'est quelqu'un qui m'honore beaucoup de son amitié. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection et qui a tenu, pendant qu'il dirigeait la London School, à m'honorer de la plus haute distinction qui existe à la London School pour le travail fait. Et qui, lorsqu'il a reçu l'équivalent du prix Nobel du Canada, qui s'appelle le Geithner Award, a tenu à m'inviter pour que je ne parle d'Ebola. Lui qui est, avec le professeur Mouyembe, des co-découvreurs. Et donc, c'est dire à quel point il est généreux et il est proche de l'Afrique et qu'il travaille toujours dans ce sens-là. Pour tout ce qui est vaccin, c'est un des grands défenseurs du fait que l'Afrique doit produire ses vaccins. Donc, tout ça est très important.
Et on va en reparler, on va poursuivre cet échange, on va en reparler, docteur Amadou Al-Fassal. Et vous avez choisi de partager avec les auditrices et les auditeurs cette chanson d'Ismaëlo, Jamou Africa. Pourquoi ce titre en particulier?
Il résume très bien l'aspiration, l'ambition que la plupart des Africains ont pour l'Afrique. C'est de voir une Afrique unie, une Afrique en paix, une Afrique qui gagne, comme disait tout à l'heure mon ami Antoine Flao. Et cette vision, tous les Africains l'ont et tous les Africains œuvrent pour ça. Et la première fois que je suis arrivé au Cambodge, Je suis allé manger dans un restaurant. Ma grande surprise, c'est cette musique qui passait. Donc ça m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un que j'adore, que je connais personnellement.
Les Sénégalais à l'international. On l'écoute tout de suite, Ismaël Lowe, dans Priorité Santé.
Africa! D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange.
Et aujourd'hui dans Priorité Santé, c'est le portrait d'un scientifique devenu décideur, responsable d'équipe avec à l'esprit l'ambition de donner des solutions africaines pour améliorer l'état de santé des populations. On continue d'échanger avec vous, docteur Amadou Alpha Sall, directeur, administrateur exécutif de l'Institut Pasteur Dakar. Votre parcours, on l'a dit, les universités les plus prestigieuses du monde, l'expérience de terrain, la reconnaissance, l'expertise, là encore reconnue à l'échelle mondiale. L'édifice Art déco qui s'élève Avenue Pasteur, hein, c'est vraiment un beau bâtiment, moi j'ai adoré. Et quand on travaille sur ces maladies émergentes, comme c'est votre cas, on est en quelque sorte au plus près de l'actualité des virus, docteur Amadou Alpha Sall. On a eu bien sûr à l'échelle planétaire, tout à l'heure on évoquait Ebola, on évoquait Zika, on a eu ces 40 dernières années le VIH-Sida, ne l'oublions surtout pas, et puis la Covid-19, une onde de choc. Pour vous, ça a provoqué une prise de conscience. De quel ordre ?
Très importante. Je peux dire que ça a permis au monde de voir à quel point nous étions vulnérables. Et ça a permis aussi d'amplifier un certain nombre d'inégalités, typiquement l'accès aux produits comme les vaccins, comme les diagnostics. Nous avons vu que l'Afrique, un continent de 1,3 milliard de personnes, a dû se battre quasi quotidiennement pour avoir accès à un vaccin qui était en surnombre dans d'autres pays. Donc la question de l'équité est quelque chose que la Covid a amené. Mais aussi, elle a permis de montrer que comment l'organisation du monde mettait en péril, y compris les pays développés, et que la nécessité d'avoir un nouvel ordre dans le domaine de la santé et de revoir un peu les choses. Ça a permis à l'Afrique de s'organiser pour se fixer qu'à l'horizon 2040, 60% de la production sera locale.
Alors justement, je vous coupe parce qu'on passe du discours aux actes vraiment. C'est le sentiment quand on arrive sur votre projet, Madiba, un rêve devenu réalité, plus de 3 hectares dans la nouvelle ville ou ville nouvelle de Damiadio, à côté de l'aéroport international Blaise Diagne. Et avant de proposer aux auditeurs une visite de ce centre, peut-être juste un mot d'explication, parce que forcément, quand on a quelques années derrière nous, comme nous deux, Madiba, on sait ce que signifie ce mot. Il faut peut-être le souligner, le rappeler à toutes celles et ceux peut-être de la jeune génération qui l'ont oublié. Madiba.
Alors Madiba, c'est un clin d'œil parce que c'était le petit nom de Nelson Mandela. Mais on en a fait un acronyme qui veut dire fabriqué en Afrique pour les Africains, mais aussi pour la vaccination, mais aussi de construire une autonomie. Donc en anglais, c'est Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy. Et c'est très important parce que quand j'ai visité Robben Island, la cellule de Mandela, l'un des guides me disait qu'il lisait régulièrement un poème qu'on appelle Invictus, pour un invisible qui était un peu une éloge de la résilience, qui se terminait par « je veux être le maître de mon destin, je veux être le capitaine de mon âme ». Et ça, c'est ce que m'évoque ce projet, de dire qu'on ne doit plus en Afrique subir ce qu'on a subi dans la Covid, et que si jamais il y a une autre épidémie de cette nature, nous devrions être en mesure de développer, produire et vacciner nos populations sur la base de nos propres moyens.
On donne un vrai sens au mot « indépendance ».
Indépendance, autonomie et capacité à prendre en charge ses propres problèmes.
Arrêt visiteur pour moi, Jam Nadeau, Trimbi, Fileyem, du Terminus, Nuinan Nyop, Nuatu Trimbi.
Et comme promis, on prend la direction de ce site de production de Damniadio. C'est un peu plus de 37 km de Dakar par la route, mais désormais c'est en train que l'on peut se rendre sur place, 46 minutes très précisément, pour atteindre le terminus du nouveau TER. Lamine Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, je vais simplement vous demander de vous présenter et ensuite de nous expliquer où nous sommes.
Alors, donc, je suis le chef du service technique à l'Institut Pasteur. Je m'occupe également des infrastructures. Et récemment, on m'a nommé chargé du développement industriel.
Devant nous, accroché au mur, il y a un plan. Il y a un plan du site sur lequel nous sommes, avec différents bâtiments. Est-ce qu'on peut dire, Lamine Sen, qu'à chaque bâtiment est dédié un savoir-faire, une technologie de santé particulière?
Tout à fait. On a le premier bâtiment, qui est aujourd'hui le savoir-faire historique de l'Institut Pasteur de Dakar, avec le vaccin contre la fièvre jaune à base d'œuf.
Je lis sur ce dessin, bâtiment Africa Maril, c'est le nom scientifique, donc Amaril, de la fièvre jaune. À côté, on a le bâtiment, ce qui s'appelle bâtiment principal. Quel vaccin sortira de ce bâtiment dans quelques mois?
Sur ce bâtiment-là, qui est un bâtiment rectangulaire et qui est sur 3 500 m², il est prévu qu'on puisse faire le vaccin contre la Covid et d'autres vaccins.
On va dire du vaccin classique. Par contre, le laboratoire 02, qui est un petit peu en retrait, là, c'est un petit peu le vaccin d'aujourd'hui, mais aussi de demain.
Exactement. C'est le vaccin de demain, parce que c'est là où on prévoit de pouvoir faire de l'ARN messager.
Et justement, pour développer ces autres vaccins, il y a un grand bâtiment autour. C'est un petit peu là où vous voyez encore plus loin.
Si on parle de vision, c'est vraiment ce bâtiment-là et pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on prend l'exemple du plan élargi de vaccination au Sénégal, c'est un vaccin sur 13 qui sont produits en Afrique. Et ce seul vaccin, c'est celui contre la fièvre jaune. Et notre ambition au court terme, c'est vraiment augmenter le portfolio de vaccins que nous réalisons en commençant par les vaccins du plan élargi de vaccination. Et tout de suite derrière, c'est de s'attaquer aux vaccins pour les maladies négligées, comme la fièvre de la vallée du Rift, le Lassa, le Zika ou encore la dengue. Donc il y a beaucoup de ces maladies-là pour lesquelles il n'y a pas encore de vaccin en tant que tel. Et donc, c'est notre ADN de travailler pour les populations.
Alors, si vous le voulez bien, là, on est sur un plan à plat. On va passer à la 3D. Pour ça, on va mettre nos casques et on va se diriger tout simplement, on va dire, vers l'usine. C'est ça, vers l'usine?
C'est ça.
Alors, on pénètre dans un immense bâtiment rectangulaire blanc avec le nom qui est inscrit sur le fronton en grandes lettres, Madiba. C'est une usine pour l'Afrique, pour lutter contre les maladies, pour l'immunisation, et également pour la construction de l'autonomie. Ces lettres forment cette inscription. Lamine Sen, on rentre dans l'usine, on y va.
Ouais, allons-y.
Il va falloir déloger les oiseaux. Hein.
Oui, vous savez, le bâtiment est actuellement ouvert. Et vous voyez par exemple ces grandes ouvertures sur 150 m². Donc on est obligé de maintenir ces grandes ouvertures parce que c'est par là que les modules vont rentrer. C'est deux chantiers en fait en un seul. Il y a un premier chantier ici à Dakar et au même moment en Europe, les modules qui sont en train d'être faits.
Ça ressemble à des sortes de containers géants. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On va rentrer. Donc là, on change d'ambiance parce qu'effectivement, le plafond est beaucoup plus réduit. On est vraiment encore au stade de chantier. Demain, il va y avoir quoi ici?
Alors, donc là, on est vraiment dans la zone la plus sensible du projet. Et donc, c'est la zone de remplissage du vaccin. Et aujourd'hui, la capacité qui est prévue ici est de 300 millions de doses.
On est sur du Covid?
On est sur du vaccin Covid, mais en fait, on est sur tout type de vaccin parce qu'on est sur une unité de remplissage. Et c'est pour ça qu'en fait, ce projet doit être compris comme une plateforme. Quand on faisait le modèle économique du projet, on avait envisagé trois scénarios possibles. Le premier scénario où la COVID explosait. Deuxième scénario où on rentrait dans de la vaccination de routine pour la COVID. Et troisième scénario, il n'y avait plus de COVID. Et c'est pour ça que dès le début, le projet a été pensé pour être une plateforme et basculer d'un vaccin à un autre suivant les orientations qui seront données avec l'État du Sénégal.
Reportage que vous venez de suivre, docteur Amadou Al-Fassal. L'alliance de la science fondamentale et de la santé publique au service de l'Afrique, est-ce que vous vous considérez comme un militant de la souveraineté sanitaire ?
Oui, je peux dire que je suis un militant ardent même de la souveraineté sanitaire, parce que non seulement la COVID nous l'a enseigné, mais tout ce à quoi on est confronté dans la santé publique aujourd'hui nous indique qu'il faut aller vers la souveraineté sanitaire. Les maladies les plus importantes en Afrique aujourd'hui n'ont pas leurs outils pour lutter avec ici. Prenez en Afrique de l'Ouest, la fièvre de Lassa est très importante, il n'y a pas de vaccin. Par ailleurs, il y a des maladies qui sont très importantes pour l'Afrique. Vous prenez le VIH, on ne produit pas de tests pour le VIH en Afrique. C'est comme si nous luttions contre un ennemi et que les armées étaient à l'extérieur. La chance qu'on aurait de gagner serait vraiment faible. Et donc, pour moi, c'est très important. Et de ce point de vue-là, ce qui me paraît encore plus important, c'est de voir qu'on a un alignement d'une volonté politique très claire, je veux dire, sur ce projet-là. Le président de la République du Sénégal, à travers le gouvernement, ont aligné la vision du Sénégal, qui est le plan Sénégal émergent, pour dire qu'au Sénégal, on va fabriquer 50% de nos produits pharmaceutiques d'ici 2035. Et l'Union africaine fait de même pour dire qu'en 2040, 60% sera produit localement. Et c'est que comme ça qu'on pourra être autonome de ce point de vue-là, de nos besoins. Mais surtout, ce que disait M. Sen, qui est très important, il faut qu'on puisse anticiper sur les problèmes futurs, d'où l'importance de la recherche et développement, d'où l'importance de former les gens. Un de mes grands espoirs qu'on essaye un peu de réaliser, c'est de faire venir un maximum de tous ces jeunes talents africains qui sont dans la pharmaceutique et la biologie pour venir justement travailler dans cette plateforme et faire que l'Afrique souffre moins de ce manque de produits et de souveraineté.
L'avenir, le passé aussi, célébré en décembre le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. 2024, ce sera le centenaire de l'Institut. C'est ma dernière question. Vous vous imaginez sur place, aux commandes de votre village, jusqu'à quand, docteur Sall ?
Alors là, je dois continuer encore jusqu'au moins 2024, parce que j'ai encore quelques années de mandat à finir. Mon rêve, c'est de passer la main assez rapidement à tous ces jeunes talents que je vois, de manière à ce que, justement, que leur jeunesse et leur vitalité permettent d'aller à notre Institut Pasteur de Dakar, d'aller encore plus loin, de répondre encore beaucoup plus aux défis qui sont des défis africains.
Merci beaucoup, docteur Amadou Al-Fassal, de nous avoir accordé de votre temps, de nous avoir ouvert les portes de l'Institut Pasteur ici à Dakar. Émission enregistrée dans les studios RFI en Foulfoulde et Mandincan. On remercie encore une fois l'équipe pour son accueil. Et Priorité Santé touche à sa fin. Émission préparée par Assetou Samaké, avec à la réalisation Maïmouna Diop, Victor Hull et Didier Bleu. Retour dans les studios RFI, où vous retrouverez au micro Céline Guillaume pour une émission consacrée à la contraception à l'occasion de la journée mondiale dédiée à l'ensemble des moyens pour éviter les grossesses. On dit au revoir Dakar et une nouvelle fois, merci pour l'accueil, merci pour les échanges. Très bonne journée.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.